Un grand merci à l'équipe, Sigère, Muriel, Olivier, qui nous a conduits dans la première partie de ce culte. Et merci pour la lecture dans ces divers passages du Nouveau Testament. Et j'ai eu à cœur de revenir ce matin sur Colossiens 1 pour reprendre dans leur contexte les versets que nous avons lus tout à l'heure dans les versets 12 à 14 de Colossiens 1. Et nous allons méditer dessus ce matin. Tout d'abord, quelques mots de contexte au sujet de cette lettre aux Colossiens. Un mot déjà sur la ville de Colosse, une petite ville de l'Empire romain qui se trouvait à quelques 160 kilomètres à l'est de la ville d'Éphèse, beaucoup plus connue celle-ci, beaucoup plus grande. Dans l'actuelle Turquie, à l'époque, ça s'appelait l'Asie mineure. Et c'est un certain Épaphras, un homme qui a sans doute été formé à l'école de l'apôtre Paul, quand Paul a passé 3 années en séjour à Éphèse. C'est Épaphras qui a évangélisé cette ville de Colosse. Et Épaphras vient auprès de Paul pour l'informer d'un certain nombre de nouvelles qui le préoccupent et qui vont du coup devenir aussi la préoccupation de l'apôtre Paul. Pourquoi des préoccupations? Parce qu'en fait, il y avait dans cette église de Colosse des faux enseignements qui commençaient à circuler dans l'église. Des faux enseignants qui venaient avec leurs idées, avec leurs enseignements, faux bien sûr, parce que pas conformes à l'enseignement des apôtres, et de l'apôtre Paul en particulier. Des faux enseignements qui portaient notamment sur des éléments de la doctrine chrétienne, sur la personne de Jésus-Christ, sa divinité, sa seigneurie. Des faux enseignements qui pouvaient porter également sur la vie concrète, pratique. J'affiche ici d'ailleurs une carte de l'Asie mineure. Ça, voilà, c'est peut-être un petit peu plus long. Il faut que ça aille jusqu'à là-bas. Voilà, au bout de la petite flèche rouge, là, vous avez Colosse dans la Turquie actuelle. Et donc, des faux enseignements aussi qui portaient sur la vie chrétienne pratique, où il fallait s'abstenir d'un certain nombre de choses. On appelait ça l'ascétisme. Il fallait s'abstenir de certains aliments. Ou alors respecter scrupuleusement certains jours de l'année ou de la semaine, comme le sabbat. Donc des enseignements erronés, bien sûr, qui étaient assez loin de l'évangile de grâce tel que annoncé par Épaphras et enseignements relayés dans tout le Nouveau Testament. Et la menace pour les chrétiens de Colosse, c'était que petit à petit, ils se laissent séduire par l'un ou l'autre de ces faux enseignements. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul prend la plume et écrit cette lettre aux Colossiens. Une lettre qu'il a écrite, comme d'ailleurs beaucoup de ses lettres, avec un ton très pastoral, avec une certaine douceur, avec un ton affectueux, bienveillant, dans le but de mettre en garde les Colossiens contre le danger qui pèse sur eux, et aussi dans le but de les encourager dans leur foi. Je vous invite à lire donc Colossiens, le chapitre 1, les versets 3 à 14. La référence s'affiche ici, et j'affiche également le texte en dessous, en 2 diapos pour qu'on ait une vision un peu d'ensemble. Dans une traduction proche de la Colombe, une traduction assez littérale, nous lisons ceci à partir du verset 3. « Nous rendons grâce sans cesse à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité qu'est l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, et d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, en portant du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes, en faisant des progrès dans la connaissance de Dieu, en étant fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, en rendant grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux saints, car il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous avons ici une longue prière qui se découpe en fait en deux parties, en deux prières. Tout d'abord, une prière de reconnaissance, les versets 3 à 8, et puis, affichée ici, une prière d'intercession, versets 9 à 14. Et Paul veut montrer ici combien l'évangile de Jésus-Christ impacte notre vie chrétienne. Nous allons commencer avec la prière de reconnaissance et le verset 3, où nous lisons « Nous rendons grâce sans cesse à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ quand nous prions pour vous. » C'est l'introduction à cette prière de reconnaissance. Le « nous » ici désigne l'apôtre Paul et puis vraisemblablement aussi Timothée dont il est question dans la salutation du verset 1, et peut-être aussi des collaborateurs de Paul et de Timothée. Cet engagement dans la prière, nous rendons grâce sans cesse, un engagement fervent dans la prière, c'est d'autant plus remarquable qu'il concerne des chrétiens que l'apôtre Paul n'a jamais rencontrés. C'est Épaphras qui a annoncé l'évangile dans cette ville de Colosse. Et les versets suivants, 4 à 8 de cette prière de reconnaissance, expliquent les raisons pour lesquelles Paul remercie Dieu à l'égard des Colossiens. Et on y trouve quatre impacts de l'évangile de Jésus dans la vie du chrétien et ici dans la vie des Colossiens. Le premier impact, c'est la foi au verset 4. Je réaffiche aussi le verset. Paul n'a jamais vu les chrétiens de Colosse, mais il a entendu parler de leur foi en Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité des morts. Et la foi, c'est ce moyen fondamental qui permet de s'approprier la grâce que Dieu nous a faite par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. La foi en Jésus-Christ. Dans la suite de la lettre, et même déjà le verset 13 que nous avons lu tout à l'heure, 14, et puis verset 15, et puis encore le chapitre 2, on voit tous ces rappels que Paul donne de l'œuvre et de la personne de Jésus. Car même si les Colossiens ont la foi en Jésus, ils ont besoin, et nous avons besoin, de nous rappeler sans cesse de qui est Jésus et de son œuvre à notre égard. Parce que Jésus-Christ est le fondement de notre foi. Sans Jésus, la foi chrétienne n'aurait aucun sens. D'ailleurs, dans l'histoire de l'Église, quand des détracteurs ont cherché à s'en prendre à la foi chrétienne, où est-ce qu'ils ont attaqué? Ils s'en sont pris, dans bien des cas, à Jésus-Christ. À qui il est? Ou alors, à ce qu'il a accompli? Et en disant, non, ce n'est pas la vérité, non, ce n'est pas vrai, non, Jésus n'est pas Dieu, non, Jésus n'est pas mort sur la croix, non, il n'est pas ressuscité. Ça, ce sont les détracteurs. Ils s'en prennent au cœur de notre foi pour attaquer l'Évangile. Mais Paul rend grâce ici à Dieu pour la foi que les Colossiens ont en Jésus-Christ. Et il convient de préciser que la foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle à Jésus, mais la foi conduit à une relation personnelle. Une relation personnelle avec Jésus, une relation qui est nourrie, entretenue par la prière et par l'écoute de sa parole, la Bible. Nous y reviendrons. Le deuxième impact, après la foi, le deuxième impact de l'Évangile dans la vie chrétienne, c'est l'amour, dont il est question ici au verset 4. L'amour que les Colossiens ont pour tous les saints, ou pour le dire autrement, l'amour qu'ils ont pour tous les membres du peuple de Dieu. Les saints désignent ceux qui font partie du peuple de Dieu, les membres du peuple de Dieu. La foi et maintenant l'amour. Pour Paul, la foi chrétienne se manifeste toujours par des actes d'amour. On le lit dans un verset que je trouve assez remarquable en Galates. En Christ Jésus, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. La foi et l'amour vont de pair. Ça va ensemble. La foi en Jésus se traduit en tout premier lieu dans l'amour. Et dans le contexte ici, il est question de l'amour pour les saints, c'est-à-dire l'amour pour notre frère, notre sœur dans la foi. Une foi en Jésus qui serait dénuée d'amour, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi en Jésus. D'ailleurs, l'une des choses qui caractérise Jésus au plus haut point, j'ai bien dit l'une des choses, ce n'est de loin pas la seule, mais c'est l'amour. L'amour. Par conséquent, placer notre foi en Jésus, c'est apprendre à aimer comme Jésus a aimé, comme Jésus nous a aimés. En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à suivre l'exemple de notre divin maître, qu'est Jésus. Mais peut-être faut-il préciser là aussi quelque chose d'important. Tout comme la foi n'est pas seulement une foi en parole, « Oui, je crois en Dieu », eh bien l'amour n'est pas non plus simplement quelque chose en parole. « Oui, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur ». Non. L'amour se traduit par des actes concrets, par lesquels nous recherchons le bien de ceux qui nous entourent. Ça peut prendre bien des formes, l'écoute de notre frère, de notre sœur dans la foi. Un service rendu. Dis-moi comment je peux prier pour toi cette semaine. Point de suspension, point de suspension. Est-ce que nous aimons tous les membres du peuple de Dieu ? Et dans cette question que je pose, il y a un petit mot qui est important. C'est ce petit mot « tous » que je n'invente pas, il est là. Est-ce que nous aimons tous les membres du peuple de Dieu ? Parce que c'est facile d'aimer le frère ou la sœur dans la foi qui nous ressemble, avec laquelle il y a, ou avec lequel il y a des atomes crochus. Mais Jésus a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? » Les PAG n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant ? Matthieu 5, 46 et 47. Mais est-ce que nous aimons la personne qui est différente de nous ? Est-ce que nous aimons la personne qui a un handicap ? Est-ce que nous sommes prêts à lui rendre un service ? Est-ce que nous aimons la personne avec qui, vous savez, quand vous commencez une conversation, vous savez à quelle heure vous commencez, mais vous ne savez pas à quelle heure vous allez terminer, hein ? Est-ce que nous sommes prêts à prendre du temps pour cette personne ? Est-ce que nous aimons la personne qui ne porte pas le même parfum que nous, ou pour le dire autrement, qui ne porte pas de parfum et dont la proximité peut être un peu compliqué. Est-ce que nous investissons d'une manière générale dans les relations avec nos frères et nos sœurs dans la foi ? Investissons, ce n'est pas du tout dans le but de quelque chose derrière, mais c'est plutôt je donne sans compter. Je donne, je me donne pour mon frère, pour ma sœur dans la foi. Si nous comptons que sur nous-mêmes pour aimer nos frères et sœurs. Alors, autant dire que ça va être très dur. On va s'épuiser. Mais c'est au contraire parce que nous allons puiser dans l'amour de Dieu. Cet amour qui est débordant, cet amour qui est sans fin, c'est parce que nous allons puiser dans cet amour-là, l'amour de Dieu, que nous allons apprendre à aimer, d'un amour qui se donne tout comme Jésus s'est donné pour nous. D'un amour qui est désintéressé, d'un amour qui voit les intérêts de l'autre avant ses propres intérêts. D'un amour qui est débordant, tout comme Jésus qui a aimé sans compter. Pour ne pas s'épuiser par nos propres forces, il faut puiser dans l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que nous aimons tous les membres du peuple de Dieu? Et je vous invite à regarder là les personnes qui sont à côté de vous. Alors peut-être pas la personne qui est immédiatement à côté, parce que c'est probablement un proche ou un voisin ou quelqu'un que vous connaissez déjà bien. Mais tournez votre regard deux, trois rangs plus loin ou à côté, ou chaise à côté de vous. Regardez ces personnes. Et je vous invite à regarder ces personnes et à saisir toute occasion que vous aurez, dès la fin du culte, là tout à l'heure, hein, dès la fin du culte, pour mettre en œuvre cet amour les uns pour les autres. En allant saluer peut-être la personne que vous connaissez moins. En lançant une invitation à la bonne franquette. Vous savez, parfois quand on lance une invitation, c'est les petits plats dans les grands, hein, mais parfois on peut faire très simple. Soyons simples. Viens mercredi à 18h, on mange ensemble et après on va à la réunion de prière. Deux trucs en un là. Non mais voyez, comment est-ce qu'on peut faire des choses très simples, pour apprendre à nous connaître les uns les autres, pour investir dans les relations avec les gens qui sont là autour de nous ce matin. Ou en prenant des nouvelles d'un frère, d'une sœur, bah, qu'on n'a pas vu depuis le mois de juin. Tiens, j'ai pas de nouvelles de... Donne-moi ses coordonnées, je vais lui envoyer un message. Soyons simples. Le troisième impact de l'évangile dans la vie chrétienne, au verset suivant, le verset 5, l'espérance. À cause de... Hop là, ça va un petit peu loin. Voilà. Ah bah décidément. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Les Colossiens ont besoin de se rappeler que leur expérience présente de la foi et de l'amour dont on vient de parler repose sur le solide fondement de ce que Dieu tient en réserve pour eux dans le futur. C'est leur espérance. Et c'est d'ailleurs d'autant plus important dans le contexte qu'on a esquissé tout à l'heure avec des faux enseignements qui incitent à se demander si Jésus-Christ est vraiment celui qui va pouvoir répondre à tous nos besoins spirituels. Ça pouvait être un petit peu la question que des Colossiens se posaient avec, en entendant l'enseignement, enfin les faux enseignements de ces faux docteurs. Est-ce que Jésus est vraiment suffisant? Et l'apôtre Paul est en train de dire, eh bien oui. Paul veut qu'on comprenne que l'Évangile s'oppose à toutes ces fausses doctrines, car elles ne constituent pas un solide fondement pour l'espérance. Les Colossiens, ils ont cette espérance que leur salut final, bien qu'il existe déjà maintenant, même sans forcément l'expérimenter totalement, eh bien leur salut final leur est réservé dans les cieux. Et en tant que chrétiens, l'Évangile de Jésus nous invite à avoir cette espérance que nous serons un jour auprès de Jésus pour l'éternité. Le chrétien, il a ses deux pieds ici sur la terre, mais il a les regards fixés vers son Sauveur qui l'attend, quand ce sera le moment, bien sûr. Nous avons cette espérance en Dieu. Et d'ailleurs, Pierre nous en a parlé dimanche passé dans la prédication dans l'Ancien Testament, Lamentation chapitre 3, avec le prophète Jérémie. Et je vous invite à réécouter cet enseignement si vous ne l'aviez pas entendu. Vous aurez noté que nous avons là dans ces versets 4 et 5 ce que nous appelons parfois les trois vertus chrétiennes, la foi, l'amour et l'espérance, qu'on retrouve d'ailleurs à d'autres endroits, hein, dans les lettres de Paul, par exemple dans 1 Corinthiens 13, verset 13, ou encore dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3. la foi, l'amour et l'espérance. Quatrième impact de l'Évangile dans la vie chrétienne, c'est l'accueil et l'écoute de la parole de vérité dont il est question au verset suivant, au verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité qu'est l'Évangile vous a précédemment fait connaître. La parole de vérité qu'est l'Évangile. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la Bible. Le chrétien se place à l'écoute de la parole de Dieu parce que c'est une parole de vérité. La parole de vérité dans laquelle Dieu s'est révélé. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je nous invite à nous questionner chacun sur la place que nous réservons à la Bible dans notre vie, dans notre semaine, dans notre quotidien. Est-ce que la Bible est un joli livre qui vient orner la bibliothèque dans le salon, ou bien qui trône sur la table de chevet? Ou bien plutôt, est-ce que la Bible est ouverte, lue, relue, méditée, traduite en prière, annotée peut-être pour ceux qui aiment mettre de la couleur, souligner, surligner? Réfléchissons-y. Quelle place pour la parole de Dieu dans ma vie, dans mon quotidien, aujourd'hui, demain? Arrivé ici dans cette prière de reconnaissance, nous avons le verset 6 qui est qui est vraiment au cœur de notre passage. Voilà. Ce verset 6 que je relis, cet évangile dont il vient d'être question là, il est parvenu chez vous tout comme il porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier, et il en est de même pour vous. Et il me semble ici que Paul met en exergue comment l'Évangile impacte la vie du croyant pour le transformer toujours plus à l'image de Jésus. Et on va voir cela au moyen de la structure de ces versets 4 à 8, où on a, dans ces versets 4 à 8, on a une structure un peu concentrique. Vous imaginez une cible pour les fléchettes avec des cercles là, et puis au cœur, ce qui est le plus important. Eh bien, dans le cercle extérieur, on a la nouvelle de la foi et de l'amour des Colossiens. Verset 4 et au verset 8. Je ne les relis pas, mais je relis peut-être le verset 8 qu'on n'a pas relu tout à l'heure. Il nous a signalé, là, Épaphras, de quel amour l'Esprit vous anime. On retrouve l'amour dont il est question au verset 4. À l'intérieur de ce cercle, nous trouvons l'accueil et l'écoute que nous faisons de la parole de Dieu. La parole de vérité qu'est l'Évangile vous a précédemment fait connaître, et au, la suite du verset 6, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions qu'Épaphras, etc., vous a transmises. C'est cette parole de vérité. Eh bien, vous l'avez accueillie, cette parole de l'Évangile. Et au centre de tout ça, au cœur de tout cela, nous avons l'Évangile de Jésus-Christ qui porte du fruit, qui nous fait aller de progrès en progrès. Cet évangile porte du fruit et fait des progrès chez vous, les Colossiens. Et moi, Paul, eh bien, je rends grâce à Dieu pour ça. Et dans le contexte qu'on a esquissé tout à l'heure, avec la présence de faux enseignements, Paul insiste ici sur la puissance intrinsèque de l'évangile, qui répond à tous les besoins spirituels que Colossiens et tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens peuvent avoir. Parce que l'Évangile qui est central dans ce passage, il est au cœur, eh bien cet Évangile, il est parvenu en vers ici, il est parvenu aux Colossiens, ils y ont fait bon accueil, et ça s'est traduit derrière par la foi, et l'amour en est la première traduction concrète, l'amour pour les frères et sœurs. J'attire votre attention sur le fait que, verset 8, Épaphras nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est Dieu qui suscite l'amour en nous, par son Esprit Saint qui agit en nous. Et pourquoi cela est-il possible? Qu'est-ce qui rend cette transformation possible? Eh bien, c'est parce que l'Évangile de Jésus-Christ, qui est au centre ici, au verset 6, c'est pour ça que j'ai mis ces petits décalés là, alinéa, ou je ne sais pas comment il faut dire, l'Évangile, il est au cœur, il est au centre. Et cet Évangile, nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Et cet Évangile, par la grâce de Dieu encore, il porte du fruit en nous. La foi et l'amour en sont l'expression la plus concrète. Et puis nous arrivons à la seconde partie de la prière de Paul, la prière d'intercession au verset 9 et 14. Elle est affichée ici. Il y a quelque chose qui ne saute peut-être pas aux yeux à la première lecture. D'ailleurs, je me suis demandé si même à la deuxième lecture, ça sautait aux yeux. Mais on peut noter quand même de nombreux parallèles entre la prière de reconnaissance et la prière d'intercession qu'on a maintenant. Je vous les affiche ici, dans un tableau. Voilà. Prière de reconnaissance à gauche, prière d'intercession à droite. Nous rendons grâce à Dieu le Père, verset 3, rendant grâce au Père, verset 12. Sans cesse, verset 3, nous ne cessons, verset 9. Nous prions pour vous, verset 3, de prier pour vous, au verset 9. L'Évangile porte du fruit et fait des progrès, verset 6, portant du fruit et en faisant des progrès, au verset 10. Depuis le jour où vous avez entendu, verset 6, depuis le jour où nous avons entendu, verset 9. Vous avez connu la grâce de Dieu, verset 6. La connaissance de sa volonté, verset 9. La connaissance de Dieu, au verset 10. Pourquoi tous ces parallèles? Pourquoi toutes ces ressemblances ici? Quelle était l'intention de Paul dans ces échos là qu'il y a entre cette prière de reconnaissance et cette prière d'intercession qu'il formule maintenant? Il me semble ici que cela suggère aux Colossiens qu'ils doivent persévérer dans la voie dans laquelle ils sont déjà engagés. Paul a remercié Dieu pour les Colossiens parce qu'ils vivent, comme on l'a vu, la foi, l'amour, l'espérance. Ils ont accueilli la parole de Dieu. Et tout cela, ça porte du fruit, l'Évangile porte du fruit en eux. Ils sont déjà donc en croissance vers la maturité chrétienne, ils grandissent. Mais Paul prie pour que maintenant, ils persévèrent dans l'effort déjà entrepris. Il prie pour qu'ils ne s'arrêtent pas là en si bon chemin. Parce que dans la vie chrétienne, il nous faut persévérer. Il nous faut toujours persévérer. Et donc dans sa prière d'intercession, Paul commence par demander à Dieu, au verset 9 que j'affiche maintenant, la maturité chrétienne. Ne pas s'arrêter en chemin, mais persévérer. Et il demande la maturité chrétienne au verset 9 que nous relisons ici. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons entendu, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul demande que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Le « soyez remplis » ici, c'est ce qu'on appelle un passif divin. Il ne dit pas « remplissez-vous », comme si c'était uniquement nous qui, voilà, on se remplit nous-mêmes. Non, c'est « soyez remplis ». Sous-entendant, c'est Dieu, l'agent implicite, qui va vous remplir de la connaissance de sa volonté. On retrouve ici quelque chose encore de l'impact de l'Évangile qui agit puissamment dans notre vie pour nous transformer à l'image de Jésus. Paul ne vise rien de moins ici que la maturité spirituelle des Colossiens. Il veut leur maturité. L'apôtre Paul veut notre maturité. Et tout comme pour la foi et l'amour dont nous avons parlé tout à l'heure, il ne s'agit pas ici seulement d'une connaissance intellectuelle où il s'agirait de lire tous les livres qui sont dans la bibliothèque là-bas et tous les livres qu'on trouve à la librairie Certitude ou quoi, et de se remplir la tête. Non, Il s'agit d'une connaissance relationnelle avec Dieu, d'une connaissance de Dieu vécue dans la relation à Dieu et qui se traduit par une manière de vivre concrète. Si Paul commence par demander la maturité chrétienne, cette connaissance de Dieu et de sa parole, c'est en vue d'une chose, comme on le lit au verset suivant, « afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. » Il demande quelque chose de concret, que vous grandissiez en vue de marcher. La Bible du semeur traduit ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Ou d'autres traductions, ainsi vous pourrez vivre d'une manière digne du Seigneur. Paul prie pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en vue de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Verset 10. Posons-nous la question ou les questions. Est-ce que ma manière de vivre, notre manière de vivre, est-ce que cela reflète notre appartenance à Jésus? Est-ce que notre manière de vivre est alignée avec la volonté de Jésus, avec sa parole? Est-ce que notre manière de vivre plaît à Jésus, plaît à Dieu? Et pour répondre à cette question, Paul donne, dans les versets 10 à 14, il donne quatre caractéristiques de ce que signifie cette marche qui plaît à Dieu. Et il les donne au moyen de quatre verbes qui sont conjugués très littéralement au participe présent et que donc j'ai tenté de rendre dans la traduction ici, en portant du fruit, en faisant des progrès, en étant fortifié, en rendant grâce. Et je vous propose de revenir très succinctement sur chacune de ces quatre propositions ici. Afin que vous marchiez en portant du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme je le disais tout à l'heure, l'amour pour les frères et sœurs en Christ est en quelque sorte le premier fruit du disciple de Jésus. Quel fruit est-ce que je porte dans ma vie? Notamment, pour rester dans le contexte, quel fruit je porte dans le cadre de mes relations avec mes frères et sœurs dans la foi, avec les membres du peuple de Dieu? Est-ce que ma relation avec Jésus m'amène à porter du fruit? Est-ce que ma relation verticale avec Jésus m'amène à porter des fruits sur le plan horizontal avec les personnes qui m'entourent? Afin que vous marchiez en faisant des progrès dans la connaissance de Dieu. On en a parlé déjà au verset précédent de cette connaissance. Notons que ce que Paul vise pour les Colossiens, c'est encore une fois la maturité dans la vie chrétienne. Et le moyen privilégié de connaître Dieu, c'est de lire la Bible, la parole de Dieu, dans laquelle il s'est révélé à nous. Et cela fait écho à cette parole de vérité dont il était question dans la prière de reconnaissance au début. Lisons la parole de Dieu. Lisons toute la parole de Dieu. Et pas uniquement les passages, les chapitres ou les livres que nous affectionnons particulièrement. Où en sommes-nous dans notre connaissance de Dieu et de sa parole? Je vous invite à considérer toutes ces rencontres que nous avons en Église, où nous étudions la parole de Dieu, comme autant d'occasions à saisir pour progresser dans notre connaissance de Dieu. Le culte le dimanche matin, mais pas seulement. Pendant l'été, les rencontres du mercredi soir, les groupes de maison et études bibliques qui reprendront au début du mois d'octobre, les rencontres pour les enfants ou encore le groupe de jeunes qui reprennent aussi, et peut-être d'autres occasions qui verront le jour dans les prochains mois, où nous étudions la parole de Dieu ensemble pour justement faire des progrès, croître dans la connaissance de Dieu. Troisièmement, afin que vous marchiez en étant fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Et là encore, nous avons un passif divin, vous voyez. Nous ne nous fortifions pas nous-mêmes, mais nous sommes fortifiés parce que c'est Dieu qui nous fortifie intérieurement, par son action en nous, par son esprit. C'est Dieu qui va susciter en nous la persévérance. Tout comme un être humain va grandir et au fur et à mesure qu'il va grandir physiquement, il va augmenter dans sa force. Nous n'avons pas la même force que quand nous avions 2 ans, 3 ans, 10 ans. De même, en tant que chrétiens, nous allons grandir spirituellement et au fur et à mesure que nous allons grandir, au fur et à mesure que les années avancent, eh bien, nous grandissons aussi dans notre force, dans notre persévérance, dans notre patience pour tenir ferme face aux épreuves de la vie. Mais c'est une force qui nous vient de Dieu et qu'il nous faut accueillir en étant malléable, j'ai envie de dire, entre les mains de Dieu pour qu'il agisse en nous. Enfin, afin que vous marchiez en rendant grâce à Dieu avec joie, en rendant grâce, pardon, avec joie au Père. La place de la reconnaissance dans la vie chrétienne, que c'est important. Une vie qui plaît à Dieu, c'est une vie qui est marquée par la reconnaissance avec joie. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que, selon les traductions, les mots « avec joie » sont rattachés à la fin du verset 11, ou alors, comme j'ai choisi de le faire ici, et avec d'autres traductions, ce n'est pas mon invention personnelle, « avec joie » vient au début du verset 12. Et il me semble qu'il y a plus d'arguments en faveur de cela. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le lieu. L'apôtre Paul nous invite à une vie de reconnaissance avec joie. Et c'est d'autant plus pertinent que l'apôtre Paul, quand il écrit cette lettre aux Colossiens, vous savez où il est ? Il est en prison. Il est en prison. Il est en prison pour la cause de l'Évangile. Il sait de quoi il parle quand il évoque la reconnaissance. Pour Paul, rien ne saurait lui retirer cette joie et la reconnaissance. Pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que, en rendant grâce, avec joie au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux saints, car il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. L'apôtre Paul peut être en prison, peut être sur un navire qui est en train de chavirer dans la mer Méditerranée, peut-être en train d'être lapidé dans telle ou telle ville où il annonce l'Évangile, peut-être dans n'importe quelle circonstance, rien ne saurait entacher cette vérité-là. Rien. Rien ne peut amoindrir l'œuvre que Dieu a accomplie par Jésus, par amour pour nous sauver. Ne soyons jamais lassés de dire notre reconnaissance à Dieu avec joie, dans toutes les circonstances de notre vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'affiche ici la diapo récapitulative et je vous invite à terminer par la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole et pour la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Ton Évangile impacte notre vie. Seigneur, nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais c'est par ton Esprit qui agit à nous, en nous. Ton Évangile est le seul Évangile. Nous voulons le proclamer, Seigneur. Nous voulons proclamer qu'il n'y a rien à attendre d'autre parce que tu as tout accompli pour nous sauver, mais aussi pour nous transformer chaque jour davantage à l'image de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier de nous aider à être toujours plus malléables entre tes mains pour accueillir ton œuvre en nous. Aide-nous à centrer notre vie sur la personne de Jésus par la foi en lui. Aide-nous à aimer notre frère, notre sœur, et plus largement notre prochain de cet amour dont tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, à fixer notre espérance sur toi. Aide-nous à accueillir ta parole de vérité et à la mettre en pratique dans notre vie. Merci parce que c'est ton évangile, l'évangile de Jésus-Christ qui nous transforme, qui porte du fruit en nous et qui nous fait marcher de progrès en progrès. Mais Seigneur, comme l'apôtre Paul nous y exhorte, après avoir exhorté aussi les Colossiens, nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. Mais nous te prions de nous aider à continuer de porter du fruit. Continuer de progresser dans la connaissance de ta vérité. Continuer de puiser nos forces en toi et tenir ferme dans l'épreuve. De continuer à considérer la place de la reconnaissance en toutes circonstances avec joie. Conscient, Seigneur, qu'il y a ton œuvre et il y a la nôtre où nous te laissons agir en nous, où nous méditons ta parole, où nous te prions, où nous t'écoutons, où nous recherchons à discerner ta volonté. Nous te remercions pour ta parole et que tu nous aides à la vivre, à la mettre en pratique, tout à l'heure, demain, toute cette semaine. Et tout cela pour ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.